sont les meilleures applications pour Mac. La fine équipe dont refait le Mac a sélectionné pour vous nos 100 apps chouchous, photos, graphismes, utilitaires, best-of des alternatives aux programmes standards du marché, facturés de plus en plus cher quand on ne vous force pas à souscrire un abonnement. À ce propos, les éditeurs historiques ne sont-ils pas des rentiers? Est-il possible d'innover encore en matière logicielle? Débat! Et on va se faire encore des amis. Bonjour à toutes et à tous. Vous regardez On refait le Mac, alias ORLM. Très heureux de vous retrouver pour notre débat tech hebdomadaire. Merci pour votre fidélité et n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant bien sûr à notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker. C'est important pour que l'algorithme de YouTube nous like. Voilà, nous like et nous pousse dans les algorithmes. On veut craquer l'algorithme de YouTube. Un salut particulier aux membres du club ORLM, c'est la version premium de notre chaîne YouTube, c'est un abonnement payant, vous soutenez ORLM et ses équipes bien sûr. Et en contrepartie, l'émission est accessible un petit peu avant, à 24 heures en avance. On est diffusé dès le jeudi soir et vous pouvez poser des questions en direct, échanger avec l'équipe au quotidien via un chatroom sur Discord et venir ici au Village Bastiat, dans ce bel endroit, ce beau studio, assister aux enregistrements et surtout aux coulisses, aller découvrir le côté obscur de Stéphane Zibi. Toutes les infos sur notre chaîne YouTube ou en scannant ce QR code que vous avez vu passer à l'écran. Justement, on parlait de Stéphane Zibi, mais on ne va pas commencer par lui, avec à mes côtés en plateau. L'homme qui aide les syndics de copropriété à ne pas aller en prison, c'est quoi? Qui a encore modifié mon script? Laurent Bontanache, bonjour Laurent.
Bonjour tout le monde.
Alors, écoute, tu en as sorti combien cette année de prison?
Non, je ne les ai pas sortis de prison, je les aide à faire qu'ils respectent la loi, et donc, parce qu'ils ont des obligations légales, et donc à ne pas être pénalisés, c'est tout. Et la majorité est nickel, mais c'est juste... Les contraintes de l'État français sont infinies.
Bien. À côté de toi, c'est un système à lui tout seul, parce qu'il est solaire. Le solaire, Stéphane Zibi. Monsieur Stéphane Zibi. Ça va bien, Stéphane?
Bonjour à tous, je suis content d'être là.
Bon, t'as préparé tes petites applications?
Oui.
Bon, et à ma droite, le Uber Geek Tastique. Geek Tastique, c'est imprononçable hein, ce que tu m'as écrit là. Christophe de Grave.
C'est pas moi qui l'ai écrit. C'est pas moi qui l'ai écrit en plus.
Oui, je sais bien.
C'est Laurent qui a.
Il a encore modifié.
Qui a hacké ton script cette fois-ci. Et ben ça va? Tout va bien?
Ben oui, tu as déjà tes coups de cœur qui sont prêts à dégainer,
je vois. Ah, mais à fond, mais je pense qu'aujourd'hui on va se régaler en fait, vu la thématique. J'ai même envie de dire bonne app.
Alors. Il la prépare depuis. Oh là, magnifique. Il la prépare, il a préparé. Pendant tout ce temps, entre Bruxelles et Paris, il a travaillé.
Voilà.
Alors justement, on va parler d'applications. C'était le sondage cette semaine. Regardez la question. Téléchargez-vous encore fréquemment des apps pour votre Mac? Oui, via l'App Store, 22,4%, ce qui est un score relativement honorable quand on sait que moi, je n'y vais quasiment jamais. Oui, via le site de l'éditeur, 30,8%, qui a encore largement de temps. Par contre, la majorité, c'est non, vous ne téléchargez plus d'applications car vous considérez que les éditeurs n'innovent plus, tout simplement, 43,9%. Ou alors, vous êtes simplement 2,8%, ça m'étonne. J'utilise des apps dans le cloud, on voulait dire, j'ai des abonnements cloud type Adobe Creative ou Office 365. Je pense qu'on a mal formulé, c'est pour ça que ça fait que 2,8%. Alors justement, les éditeurs, est-ce qu'ils n'innovent plus suffisamment aujourd'hui? Sont-ils devenus des rentiers? En préambule de cette émission, un petit débat derrière les fagots. Alors les amis, est-ce que les éditeurs d'applications ne sont pas devenus au fil des années des rentiers? Ils encaissent, ils n'innovent plus. Hein. Trois constats que j'ai pu faire en préparant cette émission, car c'est un sujet qu'on a déjà abordé dans le passé, hein, et donc ça m'a permis de comparer notamment les prix il y a fort longtemps. On a fait cette émission il y a, quoi, je crois, 10 ans, et premier constat, les acteurs d'il y a 10 ans sont toujours les mêmes. Les positions semblent figées à l'instar de la suite Office de Microsoft ou la Creative Cloud d'Adobe. Pas de révolution majeure, pas de nouvel entrant, bref. Les amis, qu'en pensez-vous? Est-ce que les éditeurs historiques sont-ils assis sur une rente? Qui veut se fâcher avec nos amis éditeurs?
Je pense qu'il y a quand même des nouveaux éditeurs qui arrivent. Enfin, il y a quand même des logiciels comme Slack qui sont quand même pas mal utilisés en entreprise, etc. Qui n'existaient pas il y a 10-15 ans. Voilà. Donc, il y a quand même des acteurs sur le marché qui sont récents. Maintenant, oui, tu as des dinosaures, en fait, comme 8, Microsoft.
8.
C'est exactement ce que j'ai dit. Hein. Je sais pas ce que... C'est incroyable. Hein. On m'en veut, hein, vraiment.
Je me moque de son accent. Je ne comprends pas.
Mais effectivement, et après, il y a dans le mot rentier, il y a aussi cette récurrence. Et on va sans doute en parler à un moment donné, mais oui, tout le monde va vers la récurrence de revenus. Et quand on crée une application, on a vraiment l'envie majeure de la vendre pour un coût mensuel, à un moment donné.
Et c'est le deuxième constat que j'ai pu faire, mais ça, c'est pas très original, c'est qu'un nouvel modèle économique s'est imposé, Laurent, et c'est l'abonnement sur le cloud, notamment.
Oui, tout à fait. Alors, au-delà du cloud, c'est l'abonnement. C'est-à-dire qu'on est passé de l'économie de l'achat avec... ça se voit d'ailleurs même dans le monde professionnel. On avait ce qu'on appelait la licence, et ensuite, on payait une maintenance pour avoir le support. Maintenant, on est vraiment passé vers l'économie de l'abonnement, où tu payes moins cher, des petits montants. Alors, parfois, c'est mensuel. Parfois c'est annuel, et il y a eu une migration progressive des éditeurs sur ce modèle-là. Ce qui est intéressant, c'est que certains ont pas franchi, enfin ils ont franchi le pas, mais ils proposent quand même le fait de pouvoir
acheter pas le logiciel.
Du style tu achètes pour un montant à vie, mais tu restes bloqué sur une version donnée. Mais
donc c'est souvent le cas des nouveaux entrants.
Les
historiques essaient plutôt d'aller vers le modèle récurrent d'abonnement, d'où mon image du rentier.
Tu sais, ce qui est intéressant pour moi, c'est quand tu as cité tout à l'heure Adobe, quand Adobe a été capable de passer, parce qu'ils vendaient leur suite quand même à un prix exorbitant, et le moment où ils ont réussi à le ramener à un prix d'abonnement mensuel, même si leurs contrats sont pourraves.
C'est 500 euros par an, en gros, Adobe, aujourd'hui.
Ça dépend. C'est-à-dire que si tu veux toute la suite, c'est 69,99 de mémoire, mais qu'il y a une offre à 9,99 où tu as ce qu'ils appellent la partie photo, donc c'est Photoshop et une appli photo.
Ouais.
Mais par contre, le contrat est annuel. Donc c'est-à-dire que si tu veux changer en milieu d'année, tu as pris un abonnement mensuel, au bout de 6 mois, tu dis oh, finalement c'est con, je vais le prendre en annuel. En fait, ils te repasculent, tu peux pas finir l'année sur le truc. C'est leur contrat, tout, c'est pourri. Ça reste du Adobe quand même. Et à premier copain.
Mais avec du revenu récurrent, effectivement.
Par contre, ils ont lissé le revenu récurrent.
Et cette possibilité, ben oui, donc effectivement c'est ventilé, c'est lissé, donc tu payes qu'une somme forfaitaire tous les mois ou tous les ans en fonction du modèle que tu choisis. Et ça finalement, si on y pense bien, c'est quand même la meilleure des réponses. À ce qu'on appelait le piratage il y a quelques années. Quoi.
Oui,
bien sûr.
C'était leur argument de choc à l'époque en disant voilà, c'est vrai qu'Adobe était victime d'énormément de piratage, parce que leur logiciel, je ne sais pas Stéphane, tu peux en témoigner parce que tu les utilisais, ils étaient extrêmement chers et généralement, les gens qui découvraient le logiciel commençaient à travailler dessus en version pirate et puis quand ils avaient les moyens, finissaient par acheter la licence. Quoi.
Quoique non, il y en a toujours qui pirataient, même si à moins d'avoir un contrôle sur son ordi. Mais c'est vrai que il y a eu un avant et un après de toute façon cloud pour Adobe. Et nous, on l'utilise au quotidien pour les écoles.
Ouais.
Et c'est vrai qu'ils nous ont fait aussi des grandes réductions.
Et donc ça de la chance, hein, parce que nous...
Des grandes réductions en tant qu'éducation, mais en fait, c'est de l'investissement pour eux.
Tout à fait.
Tu parlais de rente. Pourquoi on parle de rente? Parce qu'on a aussi des habitudes après avec un logiciel. Quand tu as appris à travailler, sur un logiciel, tu ne vas pas t'amuser à travailler sur un logiciel.
Oui, tu as acquis des réflexes, évangélisé en fait.
Voilà, donc en gros, le fait qu'ils nous fassent payer pas cher par étudiant.
C'est malin.
Et que les gosses sortent de l'école, qu'est-ce qu'ils vont faire? Quel est le premier logiciel qu'ils vont essayer d'avoir? Ils vont voir quand même que finalement, ils vont avoir des offres un peu avantageuses pour la sortie d'école. Et derrière, après, c'est fait, c'est pareil. Okay. Et ils se battent tous entre Google et Office. Pour avoir justement ce marché-là. Parce qu'on crée les futures rentes. Mmh. Et c'est des rentes, en fait, ce sont des habitudes prises. Mmh. Voilà, après, quand tu apprends à travailler sur un logiciel. Ouais.
Alors après, juste ce que je voulais ajouter, il y a deux choses, deux petites choses. La première, c'est. Ça réduit le piratage aussi parce qu'ils ne sont plus dans un mode, on sort une version tous les 5 ans ou 4 ans. Maintenant, ils améliorent régulièrement. Tu as des mises à jour hyper régulières. Photoshop, tu as des mises à jour tout le temps.
Mais ils sont passés en méthodologie agile de développement.
Oui.
C'est incrémental, ce qui est
logique. Mais déjà, c'est la première.
Par contre, il n'y a plus vraiment d'innovation, les amis.
J'ai des nouveaux logiciels sur la suite Adobe assez fréquemment. Hein.
Oui, mais on s'aperçoit que ce que tu disais tout à l'heure, on a acquis un savoir-faire autour d'un logiciel et que 99,9% du temps, on utilise toujours les mêmes fonctionnalités qui remontent à il y a 25 ans.
Oui, parce qu'en fait...
Pas avec l'IA.
Non, mais
pas
voilà,
exactement. Mais l'IA, il y a beaucoup à faire.
Sur Adobe, si tu vois, c'est impressionnant.
Ouais. Les
suppressions de fonds, les intégrations, les détourages, c'est franchement, ils sont très impressionnants là-dessus. Juste un point, beaucoup de gens se plaignent, on l'a dans les commentaires, se plaignent du coût, mais si on voulait avoir une application qui soit vraiment à jour, c'est-à-dire et qu'on paye chaque licence à ce truc, bah, souvent le coût, un petit abonnement mensuel est plus avantageux que le paiement de trucs. Donc la perception de payer tout le temps un petit quelque chose, c'est frustrant. Ouais. Et les gens disaient, ouais, mais je paye qu'une version sur deux. Mais là, l'avantage, c'est que les gens ne réalisent pas qu'on a tout le temps la dernière version.
Ouais,
donc je suis partagé.
C'est assez nostalgique, moi.
T'es un vieux.
Mais ouais, on a acheté Photoshop tous les 3 ou 4 ans et ça marchait très bien, quoi.
Ouais, mais après, tu payes 1 000 euros, quoi. Ouais,
ma recommandation, et là, on est sur les applis Mac, juste parce qu'on a ce commentaire dans le chat.
De YouTube ?
Ouais. Ma recommandation, c'est. On a fait des applis, une émission sur les applis iOS, et on l'avait cité. C'est une appli qui s'appelle Bobby. C'est un petit écureuil, et vous listez tous les abonnements que vous avez. Et en fait, à un moment donné, tu regardes ton abonnement et tu te dis, tiens, ben finalement, je me rends compte que ça, je l'utilise moins, ça, je l'utilise moins, ça, je l'utilise moins. Et moi, j'ai fait le nettoyage. Je me suis désabonné d'une dizaine d'applications. Là, en ce moment, je me suis même désabonné de Disney+. Mes gosses sont furibards.
Mais c'était
pour tester.
Bon. Troisième constat que j'ai pu faire par rapport à.
Non, mais personne ne réagit, quoi. Parce qu'ils privent ses enfants de Disney+, de Star Wars.
Non, mais c'est le patron à la maison.
Il y a le Mandalorian qui vient de sortir.
Ça va pas durer.
Qu'est-ce qui se passe, Laurent?
Ils veulent y mettre Apple TV+, mais on a dit ça n'a pas fonctionné. Troisième constat que j'ai pu faire entre les deux émissions ces 10 ans qui sont passés, c'est les prix qui ont, je trouve, beaucoup augmenté. Beaucoup d'applications qui existaient il y a quelques années, donc qu'on a chroniqué déjà dans cette émission, qu'on a chroniqué quand j'étais encore à SVMAC ou avec Riyad, ça ne rajeunit pas. On voit leurs prix ont doublé, voire triplé. Alors, ce n'est pas forcément le cas d'Adobe, mais les prix ont flambé en matière de...
Tu sais, c'est comme quand on est passé à l'euro. Les gens disent « Ah ouais, le pain au chocolat avant, il coûtait 50 centimes. » Ouais, il y a 45 ans entre les deux.
Quand tu passes d'une application à 30 euros, elle est 5-6 ans plus tard à 69 euros.
Non, mais...
Pour la même application, il n'y a pas eu de nouvelles fonctionnalités. Il y en a beaucoup comme ça dans la liste que j'ai fait. Bon, ça reste encore des prix relativement raisonnables, vous allez voir.
Tout le monde va être d'accord avec toi. Tu sais quoi, tout le monde va être d'accord avec toi. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec toi.
Bon, très bien.
Et tu vois, dans les commentaires, tout le monde va dire « Je suis d'accord avec Olivier, Laurent, on dit n'importe quoi. » Parce que les gens, on n'aime pas payer. Malgré tout, il faut rémunérer les développeurs.
Alors, est-ce que vous trouvez que, de la part de certains gros éditeurs, c'est d'actualité sur le secteur des jeux vidéo avec Microsoft, que ces grands éditeurs historiques ont tué le marché, que les nouveaux entrants dans le secteur de la vidéo, il y a DaVinci qui arrive, même Apple n'y arrive pas. Adobe reste leader, Photoshop, j'en parle même pas, Illustrator, j'en parle même pas, Office, j'en parle même pas. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un abus de position dominante et il n'y aurait pas une action à mener
C'est pas un abus, c'est... Tu prends Pages et Word. Tu prends...
Attention à ce que tu dis, Stéphane.
Keynote, PowerPoint, tu m'en fous. Non, je le dis, j'assume. Je ne suis pas fanboy au point de dire il faut reconnaître les choses. Quand c'est meilleur, point.
Keynote est meilleur que PowerPoint.
Keynote est meilleur, moi, il me saoule.
Ah non, mais c'est...
Non. Keynote est exceptionnel.
On ne peut pas être d'accord.
Non, on ne peut pas être d'accord. Là, tu as deux fans inconditionnels de la suite.
En fait, c'est simple. Word, Microsoft Office...
Même eux, ils ne communiquent plus dessus.
Parce
que c'est plus nécessaire.
C'est tellement génial que ça diffuse tout seul.
Ouais, et ils ont une part de marché.
Non, mais pas besoin. Le truc, tu sais.
Tu sais qu'ils ont arrêté l'affiliation sur le Mac App Store.
Ah ouais. Stéphane, tu sais, c'est vraiment pour rebondir par rapport à ce que tu disais. C'est effectivement, Microsoft, ça fait en sorte que, à l'école, au collège, etc., les étudiants puissent utiliser, même à l'école supérieure, etc., les étudiants puissent utiliser Microsoft Office. Mais le truc, c'est que, si on change un petit peu ses habitudes, la suite de Apple, elle est tout à fait compétitive. Ok, on va me dire, non, mais un pro de Excel ne va pas pouvoir faire tout ce qu'il veut sur Numbers. Mais par contre,
c'est la seule qui est faible.
Voilà, c'est ça. Et malgré tout, elle continue à évoluer. Elle continue à évoluer, franchement. Chez Underside, en fait, tout est géré, en fait, tout est géré de A à Z au niveau des commissions de nos vendeurs, etc., avec des fichiers Numbers.
Tout. Et puis c'est tout.
Alors, je me permets juste un commentaire là-dessus.
Mais
Non, mais je sais. Mais on est d'accord. Juste pour comprendre une chose. Moi, j'ai plus Word, Excel, PowerPoint. Bon, PowerPoint, je l'ai plus depuis 2003. Hein, donc, j'ai plus jamais fait une présentation sur PowerPoint depuis 2003. J'exècre PowerPoint. C'est pour moi, c'est la lie de l'humanité. Bref. Et quand on a goûté à Keynote, c'est top. Mais Google Slide est pas bon. À l'inverse, Excel aujourd'hui. Excel, c'était la dernière appli que j'utilisais. Mais aujourd'hui, Google Spreadsheet est meilleur qu'Excel avec la sauvegarde et
par contre la version cloud de Keynote, enfin tout ça c'est ça.
Sauf que en collaboration ça marche super bien.
Ouais.
C'est-à-dire pas en cloud, en version je travaille sur les mêmes slides dans Keynote avec Christophe.
On parlera des applications dans un instant. Restons sur le marché et
sur la situation de
l'évolution des éditeurs. Tu parlais d'IA tout à l'heure, Laurent. C'est dur, hein. C'est dur. Ils sont dissipés aujourd'hui.
Oui.
Est-ce que les IA, est-ce que l'intelligence artificielle, on parle beaucoup de ChatGPT en ce moment, va permettre de redistribuer les cartes, que ça va être un pavé dans la mare qui va faire que les géants aujourd'hui vont être des nains demain?
Pas du tout.
Si.
Pas du tout.
Ok, argumentons.
Débat.
Bah alors voilà, justement.
Vous avez une minute, les amis.
Je pense que pour garder une forme d'attractivité, que ce soit vis-à-vis des utilisateurs, vis-à-vis du marché, vis-à-vis des investisseurs, chaque éditeur aura son petit module en IA qui va intégrer d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est.
Exact.
OK.
Impossible à
donc, tu penses que ça ne va rien changer, l'IA?
Quand, par exemple.
C'est ce que je dis.
Donc, vous êtes d'accord.
Il est d'accord avec moi.
Non, je ne suis pas d'accord. Je pense que ça va changer.
Mais non. La question d'Olivier, c'est est-ce que l'IA va faire que des petits éditeurs qui n'existaient pas
de si, il y en a des petits éditeurs d'office.
Non, est-ce que les grands vont perdre leur leadership?
Mais tout le monde va suivre. Ça va devenir,
bien sûr.
Je suis clair dans ce que je parle dans cette émission.
Il n'a rien compris. Non, c'est une commodité, l'IA.
Je pense qu'il a besoin un peu de trop.
Non, c'est une commodité, l'IA. Tout le monde va faire de l'IA. Non, mais c'est devenu une commodité, donc les applis vont essayer de s'améliorer. Non, tu es d'accord avec moi, en fait.
Mais en fait, ce qui va faire la différence entre deux logiciels, c'est la façon d'utiliser cette intelligence artificielle. Bien entendu, ce seront des options, bien entendu, ce seront des modules ajoutés, donner de l'intelligence supplémentaire.
Photoshop, aujourd'hui.
Bah oui, c'est ça. Non, c'est même pire que ça. Ouais. C'est pire que ça, tout ce qu'il y a. Il y a des journées entières de tournage de photos qui ont été annulées.
Mm-hmm.
À cause de mi-journée, c'est quand même costaud. C'est Photoshop et tournage.
Est-ce que l'intelligence artificielle va changer nos usages? Oui. Et je pense que on pourrait faire toute une émission là-dessus.
Est-ce que Internet a changé nos usages?
Voilà. Oui.
Bah oui.
Ouais.
Est-ce que le téléphone a changé nos usages?
Je suis toujours voir d'Excel.
Bah oui.
Est-ce qu'on refait le Mac?
Bill Gates en était pas persuadé. Hein.
Ouais, c'est pas grave, il a changé d'avis.
Oui, il a changé.
Seuls les cons ne changent pas d'avis.
C'est sûr.
Sauf les bips ne changent pas d'avis.
On a vu la liste des mots qu'on a le droit de dire tout à l'heure. On a listé.
En attendant, dans l'ombre des géants, des logiciels, les pipites sont légion. Place à notre top 100 des apps Mac avec en préambule. Vous allez voir une sélection d'apps photo, graphisme alternatives, notamment à Adobe. Allez, on va faire un petit inventaire à l'après-vert d'applications alternatives Adobe en matière de photo et de graphisme.
Oui. Oui, Olivier, oui. On va parler de Pixelmator.
Une alternative à Photoshop.
Voilà, une alternative à Photoshop.
Bah, tu en fais
Pixelmator Pro.
Enfin, ouais.
Non, mais
Connais pas Pixelmator.
En fait, tu sais quoi, j'ai Adobe, en fait, même si, comme on en parlait, en fait, les jeunes sont habitués à Adobe et puis après, ça continue. Donc, ce qui est important chez Adobe, c'est la suite. Merci Laurent.
Ouais, il est en forme ce soir.
Le truc, en fait, c'est que moi, je ne l'ai pas. C'est pas Adobe n'a aucun produit installé chez moi. Bon. Pas que je les aime pas, mais tout simplement, en fait, Pixelmator Pro, je le suis depuis la version 1, quand il était encore Pixelmator sans le Pro derrière. Et franchement, je l'utilise tous les jours. C'est un truc de malade. Ce qu'on voit comme visuel, en fait, pour on refait la pop, on refait le Mac, a été entre autres travaillé avec Pixelmator Pro. Et c'est moins de 60 euros. Et là, pour le coup, c'est pas du récurrent. On paye one shot, boum, terminé, c'est en dehors de notre portefeuille.
Puis il évolue très régulièrement. Et puis la déclinaison iPad, elle est bien mieux que celle de Photoshop.
Oui, très bien. Bon, après, moi, je travaille pas sur
iPad pour le moment.
Mais vraiment, sur la partie Mac, elle est hyper efficiente. Et sans cesse avec des incréments de nouveautés. Donc, par exemple, le fait de pouvoir sélectionner, comme dans Messages sur l'iPhone, de pouvoir sélectionner la silhouette de quelqu'un, en fait, et de pouvoir le copier-coller sans devoir le détourer soi-même. C'est des trucs de fou, en fait.
Voilà, et puis on n'est pas tellement dépaysé de Photoshop, c'est ça qui est plutôt bien. Donc, c'est la première pipite, évidemment. Il s'agit bien sûr de Pixelmator Pro. Tu l'as dit, moins de 60 euros, toujours dans la photo avec Stéphane Zibi.
Oui, donc là c'est chez Luminar Neo. Ils communiquent un petit peu sur un module d'IA qu'ils ont intégré.
C'est vraiment leur force aujourd'hui.
Ouais,
hein.
Ça a été lancé en février 2022, donc il y a un peu plus d'un an. Ça vaut 99 euros par an. La version pro, elle a 119 euros par an. Et à vie, c'est 149 euros. Et je crois qu'il y a une promo cette semaine. Et donc, il y a des logiciels. En fait, c'est des scripts déjà tout faits qui permettent de supprimer des gens très
beaucoup
facilement.
Beaucoup d'automatisme. Hein,
voilà, exactement.
Ma fée est bonne là, dans ce truc-là. Supprimer les gens, ils sont...
Aïe. Donc une vraie alternative à Photoshop, voilà. Moteur IA très puissant, tu me disais.
Oui.
Et si on aime beaucoup les corrections automatiques.
Voilà, exactement. Voilà. Ouais. Et donc c'est pour ceux qui ont un peu la flemme ou qui ne savent pas faire trop de retouches.
Il est assez puissant.
Hein. Voilà, et donc en gros, ils peuvent utiliser ce logiciel.
Licence à vie, tu as dit 149 euros.
149 euros, oui.
Toujours dans la photo avec toi, Laurent.
Quand on fait de la photo, on a tendance à les stocker. Apple permet de les stocker directement dans Apple Photo. Les professionnels ont tendance à aller dans Lightroom. Et si tu veux ne pas être dans l'un ou dans l'autre, tu as une option qui s'appelle Pictorial, qui est gratuite, et, ou alors qui coûte 4,99 euros par mois.
Même le prix fera rien.
Dans sa version pro.
C'est plutôt une alternative à photo d'Apple et à Lightroom.
Lightroom,
c'est ça. Ouais, ouais. Catalogueur, non.
Catalogueur de photos.
Mon côté, un petit logiciel bien sympathique qui s'appelle Photoscape 10, c'est gratuit. Si vous êtes débutant et vous ne voulez pas vous prendre la tête, hein, il propose tous les outils de retouche de base. Et surtout, il est d'une grande simplicité tout en étant très puissant. Donc, idéal pour les débutants. Vous aurez tout pour éditer vos photos. Hein, c'est vraiment de la retouche, tout en un peu à la Photoshop, mais sans le prix. Et vous avez toutes les fonctions de base, et toutes les gestions des images, les calques et j'en passe, c'est des meilleurs. Et c'est gratuit. Toujours. Alors, on parlait de cloud tout à l'heure, mais là, c'est carrément 100% de cloud ta solution cette fois-ci, Stéphane.
Oui, c'est Autodesk, Pixel. Comment on dit presque Pixlr. Donc voilà, bon, j'ai du mal à le prononcer, pardon. Bon, là, c'est un utilitaire en ligne qui propose donc tout un nombre de fonctionnalités que ses concurrents, les mêmes que ce que font les logiciels qu'on vient de citer.
Ouais, les fameux filtres.
Voilà, et donc, notamment. Pas mal de filtres. Et donc, bon, les interfaces et modes d'utilisation sont originaux, artistiques et d'une simplicité confondante. Et c'est gratuit.
Et
donc,
c'est en ligne, tu n'as pas besoin d'installer l'application.
Exactement, donc pour ceux qui ont un petit ordinateur ancien...
Voilà. Ça, je m'attendais à ce que ce type de solution se développe, et apparemment, ça reste encore timide, hein, mais bon, passons. De mon côté, il s'agit plutôt d'une alternative à Illustrator, si vous faites un peu du vectoriel, comme on le dit encore aujourd'hui, hein, si vous faites beaucoup de logos...
Ouais, c'est utilisé.
C'est la base de tout.
Mais quand tu fais la semaine dernière, je regardais comment faire des autocollants en vinyle. Bah, tu es obligé d'avoir tes layers de découpe et tout. Donc c'est
des outils dans Photoshop qui permettent aussi de l'exporter. Mais vectoriel. Mais alors, cette application-là s'appelle Affinity Designer. On est en train de perdre Stéphane. Elle coûte 84,99 euros. Donc ça va être relativement raisonnable, même si le prix est augmenté. Bon, une vraie alternative à Illustrator est vraiment taillée pour les pros. Hein, mais que les débutants se rassurent, il se veut très intuitif. Pour un prix abordable, il donne un sacré coup de vue à Illustrator bien plus difficile à maîtriser, sans parler du prix. Et c'est vrai que Illustrator, il faut du temps pour pouvoir le maîtriser, c'est un vrai sacerdoce, mais quand on y arrive, on fait des choses formidables. Un grand classique, et c'est le choix de Didier Polycane, qui est absent cette semaine, mais qui nous a envoyé quelques idées d'application.
Ouais, et en l'absence de Didier Polycane, je vais faire...
Et encore sur les routes, disons-le.
Oui, donc scandale. En fait, c'est Graphic Converter, donc c'est une appli qui vaut un peu moins de 35 euros.
Un grand classique, une historique.
Un ultra grand classique, et qui te permet de passer de n'importe quel... Bon, d'abord, tu peux aussi éditer tes photos, mais surtout, tu peux passer de te faire des transformations de photos, changement de format. Mais c'est le grand, grand classique de photos historique. Hein. Je pense que cette appli, elle existe depuis 30 ans. Hein.
Ouais, depuis que le Mac existe.
Ouais, je pense que c'est une des premières applications.
Après Mac Paint et Photoshop, quoi.
Ah ouais, y en a qui l'utilisent aussi en organisation de photos, un peu comme tout à l'heure qu'on a cité.
Non, ça a toujours été Adobe ou c'était. Non, Aldus, c'était PageMaker. Non, bref, ça, moins de 20 ans, on ne peut pas connaître. Un autre choix de Didier.
Picto.
Ouais, dans l'image, toujours.
Picto, c'est une purée d'applications, pour ne pas dire autre chose. Oui. Laurent aurait sans doute dit autre chose.
Oui, oui, oui. Mais non, c'est un peu plus du sud, une putain d'application, bordel.
Bonne mère. Ouais. Picto, c'est vraiment trop terrible, en fait, parce que quand tu travailles sur des images, des photos, etc., quand tu composes, en règle générale, ton bureau se transforme en un vrai
Capharnaüm. Bordel, tu peux dire un vrai bordel. On va essayer de le dilagander un petit peu, on va y arriver. Tu vois.
Moi, j'ai le droit d'en dire.
Et le truc de fou, c'est que du coup, moi, ma façon à moi de trier, c'est de prendre toutes ces images qui se trouvent sur mon bureau et parce que j'ai peur de les perdre, en fait, de les mettre dans un répertoire que j'appelle à trier.
À ranger, moi, j'aime.
Voilà.
15 ans après, il y a 5 ans, t'as rangé.
Ils sont imbriqués en cascade. À ranger 1, à ranger 2, à ranger 3, à ranger 7.
Ranger,
exactement. Et Picto est la solution pour tout ça.
Donc c'est un catalogueur photo, hein, voilà. Disons-le.
C'est directement branché à Pixelmator. Donc ça, c'est top. Ah. C'est un catalogue photo, effectivement. On va pouvoir faire en sorte, dans ce catalogue photo, d'utiliser de l'intelligence artificielle pour filtrer, pour reconnaître une partie des images, les classer, etc. etc. Je veux les animaux d'un côté, je veux les Commodore 64 de l'autre, etc. etc. On peut faire tout ça.
Sympa.
Et on peut regrouper les photos, les filtrer. Enfin, c'est un vrai catalogue d'images, c'est génial. Et c'est 99 euros par an, ou bien 199 euros en une licence.
À vie. Boom. Et ce qui est bien, donc, c'est que vous pouvez jeter vos photos n'importe où, il va les cataloguer, pas besoin de les regrouper, il ne va pas les copier, ouais. Les dupliquer, par exemple, comme ma photo
c'est de toute beauté.
D'Apple, pour ne pas le nommer. Autre choix de Didier Policani, mais pour les fans de PDF, Stéphane.
Oui, alors c'est PDF Element. Sur PDF Element, bah, ça nous permet de rapidement de pouvoir éditer, convertir, signer des PDF, et c'est...
Sans utiliser Acrobat.
C'est exactement.
Quoi, c'est aussi une...
Sur son ordinateur, en plus, hein, ce qui est bien, sur son ordinateur, sur... Ouais, sur son ordinateur, sur son téléphone ou directement sur le web. En tout cas, c'est une solution globale et elle est très simple et elle vaut 119 euros.
Ouais, même le prix fera rire. Il n'y a pas que la 2D dans la vie, il y a aussi la 3D.
Évidemment,
Christophe.
Évidemment qu'il y a de la 3D et de la 3D.
Et Underside est expert en 3D.
Ouais. Merci Laurent. Ouais, c'est le meilleur.
T'as pas 5 euros
Non, mais je t'assure, en fait, c'est le meilleur de mes commerciaux. De mes commerciaux ever.
Tu acceptes les tickets de carte bleue.
Non, mais on oublie de dire, à chaque fois on parle d'Underside, on oublie de dire que tous nos beaux décors magnifiques, c'est eux qui les font. Quoi.
Avec Blender.
Merci Laurent. Effectivement, avec Blender, ouais. Entre autres. Blender qui est un logiciel complètement gratuit.
Blindé, c'est pour ça.
C'est gratis. Blindé. Pas d'argent à mettre. Mais par contre, qui fait des choses magnifiques en 3D. Donc, on va pouvoir créer l'ensemble d'un décor 3D, par exemple, de manière complètement gratuite. Et franchement, on pourrait se dire, c'est que pour les professionnels. Mais moi, je me dis que à la maison, on peut aussi essayer, être créatif, se dire comment je vais aménager mon jardin, comment je vais aménager ma maison, etc. Et utiliser comme un Blender.
J'ai deux questions.
Et je vais y répondre.
Est-ce que c'est compliqué d'ailleurs? Est-ce que moi, qui suis une...
Non, toi non.
Une bille, je peux m'y mettre? Oui, il faut quand même, voilà.
Alors,
quelques talents artistiques. Et deux, est-ce qu'il faut une machine surpuissante pour ça?
Donc, il ne faut pas une machine surpuissante. Ça dépend quel type d'image, en fait, tu vas rendre à un moment donné. Donc, c'est-à-dire, tu peux travailler dans un monde en trois dimensions en ce qu'on appelle filaire. Donc, tu vas voir, par exemple, les meubles avec juste les arêtes.
Ouais.
Et donc là, c'est assez facile à manipuler, etc. Même pour un ordinateur qui, finalement, n'est pas si moderne que ça. Par contre, au moment où tu vas vouloir rendre la photo, créer l'image, en fait, là, par contre, tu vas avoir besoin, des nouveaux Macs, c'est encore mieux, parce qu'en plus, Blender...
C'est des temps de rendu, mais ça prendra plus de temps, simplement, c'est ça.
Ça va prendre plus de temps, effectivement. Et pour répondre à ta question au niveau de l'apprentissage, il y a plein de tutoriels, en fait, sur YouTube, il y a plein de tutoriels un peu partout, sur les plateformes comme Eleform, etc., etc., pour apprendre tout ça. Après, ça ne va pas remplacer, ça va pas créer une fibre artistique chez la personne. Quoi.
Et si notre réalisateur favori veut faire un plan large, parce que c'est François Bontemps, ou même un plan comme ci, ça, sur Blender, ça met combien de temps en termes de calcul?
Mais en fait, ça peut prendre jusqu'à plusieurs heures. Quoi. Ça dépend vraiment
c'est même plusieurs jours
de l'ordinateur. Oui. Ouais, plusieurs jours, plusieurs heures.
Il y en a d'autres qui vont arriver, vous allez voir, de toute beauté. Laurent, la dernière application graphisme et images, hein, c'est quoi?
C'est Diffusion B. C'est une application donc qui permet sur son Mac de pouvoir, c'est l'équivalent de Midjourney, hein, donc avec Stable Diffusion. Hein, et il existe deux versions, hein, une version haute définition, une version basse définition. Et en fait, vous posez vos prompts et ça vous crée les images. C'est pas aussi bien. Hein, j'étais un peu déçu de trucs, mais par contre, c'est une bonne manière gratuitement s'y mettre. Tu vois, j'ai juste d'utiliser la puce, sa puce de M1. Alors là, on voit avec les masques et tout. C'est une bonne façon de découvrir et de comprendre. Là, par exemple, à l'écran, on voit un truc que je trouve génial. C'est la jeune fille à la perle. On lui dit, rajoute-moi du décor. Et donc, en fait, d'une toile qui est toute petite, en fait, il étend le truc. Donc, c'est assez marrant, quoi.
Bon, pour l'instant,
et en plus, il y a plusieurs propositions. Tu lui dis, fais-moi plusieurs propositions. Moi, par exemple, je lui ai dit, hier, je m'amusais, intègre-moi dans un dessin de Edward Hopper. Et le résultat est assez génial, quoi. Et c'est une façon aussi de comprendre le temps de calcul, la précision, ouais, c'est gratuit. L'avantage, c'est que ça permet de toucher du doigt ce que ça fait.
Merci Laurent. On va continuer sur notre inventaire d'applications, mais auparavant, on va faire un petit détour du côté du busomètre. Les busomètres, ce sont les actus rumeurs qui ont le plus buzzé cette semaine sur le site Mac Forever. Et en absence encore de Didier, reviens Didier, mais il va revenir la semaine prochaine. C'est notre ami Laurent Pantanache, mais qui le rembrasse avantageusement.
Bien sûr, mais il faut que je prenne ma pause, il faut que je prenne ma pause, Didier.
Voilà. Trois quarts. Voilà, on voit tes cheveux.
On voit tes cheveux, voilà, super. Le busomètre de Didier Poulikane. Alors, iPhone 15. Bon, il y a une seule certitude, c'est qu'on va arriver au mois de septembre. Il va y avoir un iPhone 15.
Ça, on est d'accord.
Et par contre, ce qu'on ne sait pas sur l'iPhone, alors il y a eu énormément de fuites sur l'iPhone 15. C'est la première fois qu'il y a autant de fuites.
Et d'ailleurs, ça leak
à tout va, comme on dit. Hein, on utilise un anglicisme. Mais,
moi qui pensais qu'il était waterproof.
Ben non.
Pas mal, ce soir.
Non, il faut arrêter là, monsieur.
Bon, je vais continuer si vous voulez bien. Ouais, et donc, il y a pas mal de fuites et
C'était un peu téléphoné, désolé.
Ouais. Faut de mieux en mieux.
Ce qu'on a comme info, c'est potentiellement, il n'y aura pas de bouton.
Donc, button or not button.
On
a un nouveau form factor avec des bords arrondis, mais pas totalement.
Ouais, bon,
un verre qui prendrait vraiment tout l'arrière. Donc voilà. Et donc bouton pas bouton, il y a débat. A priori, ça serait non bouton.
Un retour
haptique.
Voilà, l'innovation est assez décoiffante.
Attention. On a toujours dit que Apple voulait supprimer les boutons pour des gains de place et d'une part et d'étanchéité.
Meilleure maintenance.
Oui, et ça voudrait aussi dire que potentiellement ils pourraient supprimer la prise de charge.
Oui, hein, ça se dit.
Donc
pas.
Ouais.
M'étonnerait quand même.
Non, mais je sais. Mais ça veut dire que si tu fais un téléphone complètement étanche.
Obligé d'acheter un adaptateur MagSafe pour ça.
Ouais. Ça fait une. Ils peuvent aussi annoncer un MagSafe qui est transfert de data. Hein.
Alors le Mac serait en berne. Que se passe-t-il, Laurent?
Le Mac M2 surtout, hein, mais le Mac de façon générale, il y aurait, selon IDC, hein, qui est un cabinet d'analystes, jusqu'à entre 40 et 41% des baisses des ventes de Mac. Il semblerait que le Mac M2 se vende très mal. Ce qui est un paradoxe, parce que la machine est très très bonne, mais il y a plein de pistes qui pourraient l'expliquer. Là, une des pistes serait que les gens qui sont passés au M1, il y a tellement un gap entre l'avant M1 et le M1 que du coup, tu n'as plus envie de faire ce saut où tu te retrouves à un moment donné et tu trouves surtout aujourd'hui des M1 vraiment pas chers, y compris des M1 Pro. Donc, voilà.
Ouais, il faut dire surtout que bon, c'est l'ensemble du marché qui est en baisse. Apple est en tête en termes de déclin, moins 40, tu l'as dit, 40%. Les autres sont autour de entre 25 et 30%, mais c'est là le constructeur qui a le plus progressé. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu une période de pandémie de Covid où il y a eu une explosion d'achats d'ordinateurs et qu'aujourd'hui, les gens sont équipés et qu'ils ne vont pas changer d'ordinateur tous les ans. C'est aussi une précision à donner. Une triste nouvelle,
bye bye Katie. Donc, en fait, on a Katie Cotton qui était l'emblématique VP de la com d'Apple. Aux grandes heures, hein. Elle avait travaillé main dans la main avec les plus grands noms d'Apple.
C'était une très proche de Steve.
Oui, qui a tiré sa révérence. Bon, elle avait quitté Apple pour des raisons personnelles.
Une dizaine d'années, elle a pris sa retraite, ce qui m'avait personnellement étonné parce qu'elle était toute jeune.
Elle était plutôt jeune, a priori. Elle était
même
peut-être...
Si on était un peu moqué, mais en fait, malheureusement,
elle
n'en a pas
peut-être,
beaucoup.
Elle était peut-être malade, et donc ce qui expliquerait ça. C'est
triste nouvelle, elle avait été plutôt... elle était à la fois... beaucoup appréciée ou beaucoup pas appréciée parce qu'elle était assez parfois...
Elle était dure parfois, ouais, très dure. Mais
avec nous, elle avait été particulièrement, en tout cas, très accessible. Et j'en garde un souvenir ému. Quatrième info, Rumain.
iOS 17. Bientôt, on va arriver à 170, quoi. iOS 170, bon.
C'est sûr. Plus là,
non, a priori, non.
C'est pas OS 17
Non, il faut que tu arrêtes, là, maintenant.
J'ai une blague à te faire, mais tu m'as dit que je ne veux pas te la faire, mais me brûle les lèvres.
Mais allons-y.
Et iOS 17, alors, ça commence un peu à...
Allons-y.
Si on parle de genoux, j'aurais pu te dire aussi que... Est-ce que ce n'est pas le Mac de Stéphane qui était en berne?
Stéphane, je viens de comprendre. Mais bon, allons-y. iOS 17. Okay. Non, moi, je m'en vais. Hein.
Donc, widget dynamique et centre de contrôle seraient enfin personnalisables.
Sans déconner. 25 ans après Android.
C'est fou, hein, parce qu'on attend ça depuis je ne sais pas combien de temps. Et donc voilà.
Mais le meilleur pour la fin, allez.
Le meilleur pour la fin.
Alors celle-là.
Un Mac tactile.
Alors celle-là, il faut qu'on ouvre un site de Paris sur les rumeurs. Celle-là, je ne mets pas un euro, hein, personnellement. Mais je ne sais pas toi. Donc c'est quoi ce Mac?
Écoute, ça serait un MacBook Air, mais 15 pouces.
Ça fait combien d'années qu'on nous l'annonce?
En fait, c'est comme les AirPods.
Ils insistent,
non mais tu sais, c'est comme... les AirTags. Ouais. Les AirTags, ils vont sortir. Il y a plus de 3 ans, ils sont sortis.
15 pouces,
le MacBook Air 15 pouces, ça fait depuis que le MacBook Air est sorti. Un jour, ils vont nous le sortir. Pour moi, c'est incompatible avec le concept de Air. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Voilà.
Donc, toi, tu n'y crois pas?
Non. J'espère pas, même.
Il arriverait quand?
Là, là, on serait dans les starting blocks.
Ah, donc, pour la WWDC.
Ouais,
on a la réponse dans quelques semaines. On sera en direct, soyez au rendez-vous. Allez, on continue notre inventaire des applications pour Mac et on enchaîne avec les utilitaires essentiels pour votre ordi. Je prends la main un petit logiciel qui existe depuis pas mal d'années, qui est très pratique si vous reprenez les voyages après la période de pandémie. Ça s'appelle TripMode. Hein. C'est surtout si vous êtes nomade et que vous surfez sur tous les terrains avec votre Mac en utilisant votre iPhone en modem 5G ou 4G. Mais c'est vrai, quand on est étranger, attention au dépassement des seuils de consommation de données et des forfaits. Et puis, heureusement, est arrivé TripMode. Hein, c'est un utilitaire qui affiche la consommation des diverses applications tournant en tâche de fond. C'est vraiment pratique. Et il vous donne toutes les infos, sans oublier les services Internet tels que les solutions d'hébergement dans les nuages, l'App Store, etc. C'est vraiment indispensable pour ne pas se laisser déborder, même si les prix ont bien fondu chez les fournisseurs étrangers. Stéphane, de ton côté, une petite application que moi, que j'aime beaucoup.
Ouais, ça s'appelle Image to Icon. Elle est gratuite, mais il y a une version pro à 11,99€ si vous le souhaitez.
Ouais.
En fait, elle permet de créer une icône en un clic, tout simplement.
Ah, c'est génial.
Et donc, la version pro permet de créer, d'éditer des dossiers, de tout sauvegarder dans des
disques. Ouais, d'accord. Là, tu peux faire le basket, si tu veux faire le dossier, c'est la version pro. Si tu veux faire un volume, c'est la version pro.
Voilà, exactement.
C'est sympa tout plein.
Voilà.
Cool. Mais ça vaut 12€.
12€, 11,99€, oui.
Même le prix fera rire. Christophe, de ton côté.
Une chouette app sur laquelle je peux faire aussi un jeu de mots si tu enfin
non s'il te plaît non je n'en pas
là je ne peux plus là on va me réanimer
donc en fait cette application s'appelle CubeBlocker
oh là là bah ça y est on avait dit pas de gros
bon. Et c'est une purée de bonne application parce que je sais pas pour vous en fait mais moi ça m'arrive tout le temps de quitter par inadvertance
bah oui. Et tu n'as pas
des applications.
Et tu n'as pas sauvegardé.
Bon, après beaucoup d'applications aujourd'hui sauvegardent malgré tout, il faut quand même pas se cacher, mais on fait Command Q. Et tout d'un coup, en fait, notre application se ferme et puis on se dit « Ah, j'ai perdu mon boulot ».
Et là comment c'est possible pour quitter
Et ici, ce qui se passe, c'est que c'est une application qu'on installe et qui vient s'infiltrer entre le moment où on appuie sur Command Q et le moment où l'application se ferme.
Il faut maintenir l'application longtemps, en fait.
Voilà, il va y avoir un message après. Et on va
vraiment, vraiment sûr.
Et CubeBlocker, en fait, permet également de pouvoir être... customisé, de pouvoir vraiment être peaufiné pour éventuellement lui dire pour cette application-là, c'est pas grave, en fait, tu n'interviens pas. Par contre, pour celle-là, tu interviens, etc. C'est vraiment trop top. Et donc, je ne ferai pas de jeu de mots.
Et ça peut se faire aussi, juste pour info, parce que c'est marrant, je ne savais pas que tu allais choisir cette application aujourd'hui, mais moi, je le fais parce que moi, j'ai un clavier anglais et j'ai aussi un clavier de temps en temps. Tu trouves, et en fait, quand tu fais pomme A et pomme A et pomme Q, les lettres s'inversent.
Ah oui,
et donc, ça m'arrive très souvent instinctivement. Et donc, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai modifié le raccourci de mes apps. Donc, Chrome, Safari et Arc Browser maintenant. Pour les fermer, je dois rajouter une touche supplémentaire.
La semaine prochaine, Dark Browser, une belle application, bravo. Tu es en forme, hein
Écoute, je suis sous amphétamine.
Ouais. C'est le nom de l'application.
C'est le nom de l'application. Donc en fait, amphétamine, c'est une application. D'ailleurs, l'icône, c'est une capsule, c'est un comprimé. Ça permet, de temps en temps, tu sais, tu lances ton Mac et tu lui dis, je veux pas qu'il te mette en veille.
Par exemple, là, pour piloter mon prompteur, par exemple.
Pour piloter ton prompteur. Mais des fois, tu lances juste une opération et tu dis, bon, et comme tu as programmé qu'au bout de.
Présentation.
Inactivité.
Non,
mais. Paf, oui, mais ça peut être plein d'autres choses. Des fois, tu lances. Je te donne un exemple. Tu veux que iPhoto finisse une synchro. Et tu as des milliers de photos à synchroniser. Quand tu laisses ton ordinateur, au moment où il se met en veille, il continue à synchroniser. Puis à un moment donné, il se met en veille, une sorte de veille un peu plus profonde. Et là, la synchro s'arrête. Et donc là, tu peux lui dire continue. Et donc en fait, c'est juste une appli gratuite qui te permet de dire j'active pendant X minutes l'activité ou pendant indéfiniment. Et c'est très sympa.
Et ça coûte très cher.
C'est hors de prix, c'est gratuit.
Bien. Moi, je suis un orphelin de l'Apple Remote. Souvenez la petite application qui était livrée avec les Mac autrefois pour feu. Comment ça s'appelait Front Row. Hein,
complètement oublié.
Le Media Center intégré à Mac OS X.
En plastique blanc. Pas, oui, j'en ai plein en plus. Moi, je les ai tous gardés.
C'était génial. Tu pouvais piloter ton Mac à distance.
Et il y en avait un sur lequel on pouvait venir le mettre en.
Oui, sur l'iMac.
Ouais, j'avais complètement oublié.
Incroyable.
Ouais, je suis beaucoup trop jeune.
Heureusement, est arrivé. Regardez. Siri Remote, une application qui transforme l'application, les télécommandes de l'Apple TV. En télécommande pour la piloter à partir du Mac. Ce sont des applications qui sont. Ce sont des télécommandes, je vais y arriver.
Bluetooth.
Qui sont Bluetooth, c'est tout bête.
Trop sympa.
Et c'est trop sympa. Et c'est gratuit. Donc faites-vous plaisir. Siri, Remote. Allez, un VPN. Et pourquoi ce VPN ?
Voilà. Donc dans les VPN, on en a une.
Une palanquée.
Voilà.
Et on n'est pas sponsorisé.
et on n'est pas sponsorisé par eux. Et là, je vous donnerai juste un VPN que j'ai testé dans tous les sens, parce que eux, ils passent à travers les gouttes de certains, certaines plateformes de VOD qui détectent qu'on est en VPN.
Bah Netflix, donc, notamment.
VOD, Netflix, et MyCanal en particulier, quand on est à l'étranger, quand on a envie de voir un match de foot ou autre, et ben voilà, au moins on peut le foire grâce à ExpressVPN.
Le foire,
yes. Et donc voilà, le prix.
J'ai oublié de donner le prix,
j'ai oublié combien ça coûtait. Mais,
Mais si, je vois, ça dépend en fonction.
Je crois que c'est. Alors, tu as plein d'offres. Hein, ouais. Plein d'offres. Je crois que c'est 99€ par an.
Ouais, 99€ par an, c'est ça.
Moi, j'utilise pour l'Apple TV. C'est le meilleur, en mon sens, pour l'Apple TV, pour pouvoir justement installer des applications si vous avez un compte américain et que vous voulez profiter des chaînes américaines. Notamment, vous voulez avoir HBO, vous voulez regarder avec mon épouse les chaînes australiennes. C'est ce qui.
La chaîne américaine. C'est ça qui passe, en tout cas, voilà. Voilà, c'est à 99 par an, voilà. Ouais. Et on peut le mettre sur autant d'appareils qu'on veut.
Allez, notre spécialiste du Wi-Fi des réseaux, Christophe de Grève.
Alors, sans rien de cacher, parfois, les réseaux Wi-Fi, dans un bâtiment...
Je ne vois pas du tout de quoi tu veux parler.
Il y en a un tas, je ne sais pas...
Par exemple, Studio Electro Dreams, production, 55 rue de la Boétie.
Donc effectivement, le truc, c'est qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de réseaux Wi-Fi à droite et à gauche, et particulièrement quand on habite dans un immeuble dans lequel il y a plein d'autres réseaux Wi-Fi. Et parfois, on se demande, mais pourquoi mon Wi-Fi ne fonctionne pas ? Il y a des moments où j'ai l'impression en fait, qu'il fonctionne moins vite, etc., etc., où on me déconnecte, où ça me déconnecte, etc., même si je n'ai pas de nouveau Mac. Et le truc, en fait, c'est qu'il y a maintenant la solution à tout qui s'appelle Wi-Fi Explorer, en tout cas qui est le début de la solution à tout, plutôt, et qui nous permet d'aller facilement voir au travers d'une interface assez sympa.
Ouais, c'est joli.
Après, c'est vrai que c'est en général plutôt réservé aux informaticiens, mais c'est quand même accessible, effectivement, avec des graphiques, etc., où on va pouvoir aller voir quels sont les réseaux Wi-Fi qui se chevauchent, quels sont les canaux qui sont utilisés, quelle est la rapidité du réseau, sur
les bandes de fréquence.
Voilà, les bandes de fréquence. C'est juste bien pour prendre de l'information et se dire « Tiens, j'ai l'impression que c'est quand j'allume mon micro-ondes que ça ne fonctionne plus. »
Oui, accessoirement, ça permet de choisir le bon canal, la bonne fréquence et pouvoir, si vous avez effectivement des voisins qui perturbent votre réseau Wi-Fi, d'être sur des canaux libres. Toujours sur le Wi-Fi, si vous êtes vraiment un aficionados du Wi-Fi et que vous voulez avoir le réseau parfait comme notre ami Christophe nous a développé ici en collaboration avec nos amis Netgear au studio du Village Baïsia Electric Dreams. Il s'agit de NetSpot. C'est une utilitaire qui coûte 55€ et il vous permet de vraiment cartographier aux petits oignons votre réseau et calculer la portée de vos bornes en fonction des modèles. C'est juste une bonne idée. Vous récupérez soit le plan original, il importe, ou vous le destinez à main levée. Et là, réalisez à partir d'un plan de votre domicile une cartographie de vos réseaux Wi-Fi afin de calculer, comme je vous l'ai dit, les zones d'ondes et positionner au mieux les relais afin d'étendre la portée à l'ensemble de votre habitation. Si vous avez notamment des solutions mesh, c'est vraiment très pratique. Il faut avoir un château, ce qui n'est pas loin d'être. C'est loin. Pas encore notre cas, mais on y travaille. On revient au PDF avec Laurent.
Ouais, c'est une appli que je surkiffe. C'est une toute petite appli qui s'appelle.
Surkiffe.
Ouais. Elle s'appelle.
Surkiffe.
Ouais, Lightweight PDF.
Ouais.
Tu lances l'appli, il y a juste une petite boîte qui apparaît sur ton écran. Tu prends ton PDF, tu le déposes dessus. Et sans réduire la qualité visuelle, si ton PDF, par exemple, il y a beaucoup d'images dedans, il te réduit la taille. Mais des fois, je me suis retrouvé avec des PDF qui faisaient 180 mégas. À la fin, ils font 2 mégas.
Pour déposer des formulaires sur des sites administratifs, c'est vraiment indispensable.
Sans qu'ils soient
altérés.
Ouais, pas du tout altérés graphiquement.
Et ça vaut cher ?
Non, c'est gratuit.
Bah, Lightweight, voilà.
Et franchement, c'est une de mes applis préférées et je l'utilise tout le temps,
Fait là. Merci, ouais. Laurent. Stéphane, de ton côté.
Alors, j'ai un petit tunnel d'appli là entre Dozer qui est une toute petite appli qui permet.
Des petites friandises.
Voilà, qui permet donc de.
Tu n'en as pas sauté une, Fratin ?
Oui, j'en ai sauté une. Pardon, il y a
PopClick avant, oui.
PopClick, voilà. Donc, comme PopClick, pardon. Et avance et elle permet, à l'instar des menus contextuels de l'iPhone, donc ça apparaît d'un clic et affiche un raccourci vers 100 actions différentes.
Ah oui, 100 actions. Ah bon,
de votre choix. Bah voilà. Donc il y a copier-coller, correction graphique, compteur de mots, mise en forme, etc.
Donc ça va au-delà de ce que fait aujourd'hui macOS 10. Autre petite pépite.
Dozer, donc l'appareil, c'est une petite chose qui permet donc de cacher sa barre de menu.
Instantanément.
Voilà.
Et enfin la dernière.
Une memory clean. Alors là, c'est sûr que pour
on voit Dozer. Regarde, effectivement, ouais. Et ça permet aussi de cacher et aussi de ranger.
Oui, de ranger un peu, ça met un petit peu. C'est pour ceux qui aiment bien tout, ouais. tout avoir, ça, être en mode minimaliste. Pour Memory Clean, donc la RAM, on sait que c'est essentiel pour effectuer plusieurs tâches entre plusieurs applications installées sur son ordi. Avec Memory Clean, eh ben, on clique sur quelques boutons et la RAM sera libérée immédiatement pour augmenter la rapidité.
Et la productivité. Un peu comme dans macOS 9, vous vous souvenez qu'on pouvait attribuer la RAM.
C'était, voilà, c'est vrai, il y avait un
Les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître.
Donc, un dernier,
voilà,
il s'appelle Displays. J'ai pas donné les prix, par exemple, pour PopClip, c'est 19,99. Pour Dozer, c'est gratuit. Pour Memory Clean, c'est 9,99.
C'est bien.
Et Displays, donc ça vaut 7,99. Elle nous permet de changer en un clic la résolution et donc de faire une capture d'écran, de pivoter l'image, de mieux gérer plusieurs écrans connectés à son Mac. Enfin voilà, ça gère tout ce qui pourrait être lié à son écran. Et donc voilà.
C'est particulièrement pratique si vous avez plusieurs moniteurs. On reste dans les utilitaires bien pratiques, notamment pour les ordinateurs portables.
Coconut, c'est bon. Tu connais ?
Non, je connais Oasis, mais pas Coconut.
Ah, voilà, je me suis trompé à l'ordre.
Oui, mais...
Alors, Coconut batterie, c'est un truc génial pour nous donner de l'information à propos de, devinez quoi ?
La batterie.
Et la batterie, évidemment. Rien à voir avec la musique. Et effectivement, c'est la batterie de notre ordinateur, de l'iPhone, de l'iPhone connecté en USB en fait à notre Mac. Et ça va nous permettre en fait d'avoir son niveau de charge, sa capacité réelle, le nombre de cycles de charge qui ont déjà été effectués, etc., etc. Oh, ben, c'est juste bien parce que ça nous permet de voir où on se trouve en fait, où notre ordinateur se trouve en termes de capacité de batterie.
Ouais, en clair, c'est en fonction du nombre de cycles qui sont consommés que vous connaissez la durée restante de vie de votre batterie, comme le fait très bien le menu dans l'iPhone qu'on n'a pas sur Mac, bizarrement.
Effectivement.
Une autre application, je vois que personne ne veut la faire, c'est là, donc je vais la faire moi, Zuri Web.
Ah ouais, fais-la toi.
C'est une application toute bête, en fait. C'est notamment en ces périodes d'examen. Si vous souhaitez faire semblant de travailler, si vous êtes au boulot et que vous voulez regarder une vidéo, eh bien, d'un clic, vous cachez une vidéo. Vous voyez, ah, voilà, elle disparaît, elle revient. Ah, bah, elle revient. Voilà, c'est juste pour regarder un Grand Prix de Formule 1 pendant que vous révisez ou bientôt Roland Garros, les amis.
Tu dévergondes.
Mais oui.
Non, mais je sais très bien ce qui est en train de se passer en régie pour le moment.
Oui, c'est ça.
Ils sont en train de l'installer, là, ouais, VV Prime sur les ordinateurs.
9,99 quand même. C'est pas donné, mais en période d'examen, c'est indispensable. Une vraie alternative à l'App Store, Laurent ?
Ouais, en fait, c'est une boîte qui est géniale, c'est une boîte ukrainienne. En fait, ce sont les éditeurs de Clean My Mac dont on parle un peu plus loin. Et en fait, ils ont fait un App Store où ils référencent toute une série d'applis de très, très, très grande qualité. Donc, en fait, le cahier des charges pour pouvoir être sur cet App Store, il est mais hyper rigoureux. Et en fait, ils te permettent d'avoir justement plein d'utilitaires. Moi, je suis grand utilisateur.
Tu n'as pas précisé qu'à un tarif à prix cassé.
Ouais, c'est ça.
C'est-à-dire que ce n'est pas juste les regrouper. C'est-à-dire que pour le prix d'un utilitaire,
en fait,
vous en avez 10. Quoi. C'est vraiment...
C'est plus que ça, il y a 200 apps. Non, mais c'est surtout. Alors, toutes ne sont pas. Les gens ne vont pas se retrouver dedans. Il faut pas. Moi, ce qui se passait, c'est que j'avais Clean My Map, Jump Desktop et iStat Menu, ouais, dont on parle un peu plus bas. Et en fait, quand je me suis rendu compte de combien je les payais par abonnement.
Individuellement.
En fait, ça me coûtait beaucoup moins cher de prendre un abonnement à 10 euros par mois. Et du coup, d'avoir accès à ces applications. Je suis vraiment grand fan et j'ai grâce à eux découvert plein d'apps que j'aurais pas envisagé. Je suis vraiment adorateur de cette
app. Parmi les apps que tu as découvert sur ce site, sur cet App Store alternatif,
il y en a plusieurs.
Il y a Magnet, Moom et Rectangle qui font.
Ils sont pas là-dessus. C'est pas là-dessus.
Tu as préparé un comparatif entre ces trois utilitaires. Pourquoi Magnet, Moom et Rectangle? Ça fait quoi déjà?
Alors, en fait, dans.
Parlons de Magnet.
Non, mais les trois font exactement la même chose.
On a des illustrations pour
Magnet. Oui, mais je vais prendre Magnet, Moom et les trois font la même chose. Ils permettent de redimensionner les fenêtres d'écran. Ok, donc et c'est quelque chose qui existe hyper bien sous Linux. C'est quelque chose qui a été pas mal fait sous Windows, et c'est quelque chose qui n'est pas du tout fait sur Mac. C'est-à-dire que sur Mac, tu as deux options. Soit tu cliques sur le mode plein écran et ça te prend tout l'écran, soit tu cliques longtemps sur le mode plein écran et tu as un split comme sur l'iPad. Mais c'est tout. Tu peux pas dire je veux la fenêtre un tiers en haut à droite, un quart en haut à droite. Et donc ces trois applis, elles sont intéressantes. Pourquoi ? Magnet, c'est celle que j'utilise. Elle est propre, elle est vraiment précise. Ouais. Tu peux définir plein de tailles et tu peux avoir des raccourcis pour aller passer d'un écran à l'autre. Déplacer. La deuxième, donc on enchaîne sur Moom. Moom, elle est un peu. Tant pis pour Colchaine. Et donc, elle est tout aussi bien, elle fait la même chose, elle est un peu moins jolie. Elle a quelques avantages, c'est que tu as les menus qui apparaissent dans le bouton vert. Donc c'est, tu vois, si tu n'utilises pas les raccourcis, c'est plus facile pour les retrouver. Et tu peux définir définir des tailles toi-même, chose que tu ne peux pas faire dans Magnette où les tailles sont prédéfinies.
11,99. Ouais. 9,99 au Magnette. Voilà.
Et ensuite, il y a la dernière, c'est Rectangle. Et en fait, Rectangle, elle est gratuite dans sa version simplifiée. Et il existe une version pro à 9,99. Et le développeur, il a copié parce que elle est vraiment trop proche Magnette. Il y a même le code source sur GitHub pour ceux qui veulent aller s'amuser.
Une autre laquelle est la meilleure pour toi?
Magnette. Moi, celle que j'utilise, c'est Magnette. Donc je
tu
pense
veux dire que
si...
Magnette, ça peut coller, quoi.
Ouais, ce que je reproche.
Oh,
non, mais qu'est-ce que tu as fait?
Non, je ne sais pas. Alors, on continue. Tiens, Oversight, c'est quoi? Notre application.
Alors.
Application.
Tu le rends pas compte, c'est interrompu. Magnette, tu l'as conseillé pour quelle raison, en fait?
Je la conseille parce que c'est celle qui est la plus efficace. Tu vois, il y a pas de fioriture autour de l'application.
Oversight,
c'est une application gratuite qui a été développée. Le truc, c'est un truc tout simple. Tu installes Oversight et à chaque fois que ton micro ou que ta caméra est déclenchée, tu as un message qui apparaît en disant telle appli a déclenché la caméra. Pourquoi c'est intéressant?
Tu n'as pas le petit voyant maintenant sur
Oui, mais là, l'avantage, c'est imagine que, je te donne un exemple, tu vas voir, imagine qu'une application prenne une photo de toi.
Ouais.
En une fraction de seconde, elle active, elle coupe le truc. Tu ne vois pas le point. Et en fait, tu peux dire, je veux que la pop-up reste. C'est moi qui dois cliquer dessus pour l'enlever. Et donc là, tu te rends compte que l'application a déclenché. C'est gratuit et c'est hyper simple.
Continue sur ta lancée.
J'étais très, très, très grand utilisateur de Sketch. J'étais très grand utilisateur de Evernote. Ouais. OK, donc Sketch a été racheté par Evernote. Je trouve que l'application a vieilli. Il y a peu de développement qui est fait, mais elle demeure gratuite. C'est une très bonne application de screenshot sur le Mac. J'en propose une autre un peu après, parce qu'il y en a une... Grâce à cette app dont j'ai parlé tout à l'heure, j'en ai découvert une autre qui m'a fait remplacer Sketch, sachant que Sketch, tu vois, en mode gratuit, c'est le truc. Donc, c'est une bonne option.
Tu parlais d'Asset Menu.
Ah, voilà. Alors, si je dois installer une seule chose sur un Mac, dès que je reçois un nouveau Mac, j'installe iStat Menu. Donc iStat Menu, d'ailleurs, tu le vois hein, là en haut, c'est une application qui te permet dans la barre de tâches d'avoir l'utilisation du processeur, l'utilisation de la RAM, l'utilisation du disque dur, l'utilisation du réseau. Et donc en fait, dès que tu as ton ordi qui commence à souffler, que tu le tiens, mince, il se passe quoi? Et là, tu te dis, ah, mais c'est bizarre, je comprends pas. Il y a de l'activité. Tu cliques dessus, ça te donne immédiatement accès à l'utilisation. Et te dit quelle application a consommé, consomme de l'énergie, de la batterie. Du CPU et tout.
$14.39.
Inclus dans cette app.
Autre application, tu es à fond là.
Ouais, je suis fan de Grand Perspective depuis toujours. Il existe une version gratuite et puis il existe une version qui coûte vraiment pas cher, donc ça vaut le coup. Grand Perspective, c'est tu prends ton disque dur et tu sais pas où sont les gros fichiers de ton disque dur. Parce que tu as tellement de sous-dossiers. Moi, j'ai regardé hier, j'ai 700 000 dossiers. Ah ouais. Comment dans 700 000 dossiers tu peux trouver dans le sous-dossier où était le truc? En fait, tu lances et ça te fait une cartographie de ton disque dur.
Presque de l'art.
Ouais. Et ce qui est génial, c'est que tu peux dire, je veux. Les couleurs, ça peut indiquer le type d'application, ça peut indiquer les dossiers, ça peut indiquer... Donc du coup, de temps en temps, tu as un gros bloc, tu dis c'est quoi? Tu dis, ah, mais ce sont juste les logs. Hop, tu prends, tu vas dans le dossier, tu fais aller et tu dégages les logs.
Et une fois que tu les as pour les dégager, il faut une application pour ça.
Alors, ouais, tout à fait. Moi, c'est une appli que j'adore, qui est vraiment belle. Elle a une qualité. Elle s'appelle AppZapper. Elle a un truc qui est génial. Vous pouvez l'installer en mode gratuit. Je crois qu'il y a 3 apps. Ils appellent ça zapper. Ce qui est énorme dans cette application, c'est que, ce que ça fait, c'est qu'on dit toujours sur le Mac, il n'y a qu'à supprimer l'application dans le dossier application. Ah. Sauf que dans la réalité, en fait, dans un dossier qui s'appelle librairie, tu mets tout.
Surtout pas faire ça.
Non, mais tu mets plein de petits fichiers qui sont tous les fichiers de configuration. Mmh. Souvent, ils ne sont pas gros, donc on s'en fout. Mais c'est quand même con de garder. Tu n'as plus l'application et tu as gardé les fichiers des paramètres. Ben, eux, ils vont aller chercher l'application, quels sont les fichiers paramètres pour aller sortir. Le truc que j'adore, et surtout, il faut avoir le son activé. Quand vous zappez une application, ça fait dziouk, un bruit de zap qui est exceptionnel. Et voilà.
Et après des années de complaintes, Apple a finalement intégré ce type de fonction dans les préférences d'Apple lorsque vous pouvez les désinstaller maintenant vos applications depuis macOS. Mais c'est nettement moins rigolo et moins précis que Apple.
Exactement.
Cap sur Lingon.
Lingon, il existe deux versions. Une version gratuite, celle que j'utilise moi, et puis il existe une version payante. La version gratuite, en fait, Lingon, ce que fait Lingon va chercher dans tous les dossiers du système quelles sont les applications qui se lancent au démarrage. Et en fait, on se rend compte que, par exemple, tu parlais d'Adobe tout à l'heure, tu te rends compte que Photoshop, au démarrage, ben, ils ont installé 5 applications pour vérifier que si ça tourne et tout ça. Mais finalement...
Tu as bien payé ta cotisation.
Ouais, mais tu n'en as pas besoin, parce que de toute façon, ces applis, elles se lancent au moment où... au moment. Donc, ce que peut te faire Lingol, c'est d'abord te les lister. Ça permet de faire un grand nettoyage. Les gens, ils te disent, oui, mais si je vais dans les préférences système, voir ce qui se lance, sauf qu'il y a plein de ce qu'on appelle services, hein, de l'univers Unix slash Linux, qui a plein de services qui se lancent et tu ne les vois pas là. Et donc, grâce à ça, tu vois tout ce qui se lance. Et c'est assez effarant. Et souvent, ton ordi, une fois que tu as fait le nettoyage, ton ordi te rend compte qu'il va deux fois plus vite.
Une alternative à l'application de Stéphane, exactement.
Donc, en fait, c'est...
Changer de résolution.
Ouais. C'est un truc... Moi, j'utilise... Je suis prêt à avoir des résolutions hyper petites. En fait, surtout quand on a des écrans Retina Display, les écrans Retina, en fait, tu peux avoir une définition, mais qui est immense. Et quand tu as besoin d'espace, par exemple, pour faire une tâche, tu as besoin d'espace. Sauf que, comme c'est ton écran Retina, Apple te permet pas, même en cliquant sur le bouton Option, te permet pas d'aller au-delà de la définition Retina. Là, c'est une application qui te permet d'aller au maximum de la définition. Donc, tu peux avoir jusqu'à 5000 pixels sur cet écran.
Alors,
l'avantage, c'est que quand tu as vraiment besoin, à un moment donné, d'utiliser, d'avoir de l'espace, eh ben, c'est hyper pratique. Tu le lances, tu gagnes ton espace, tu fais ton tri, ton truc, et ensuite, tu le désactives, tu reviens en mode normal.
Avec Blender, par exemple.
Avec Blender, par exemple.
14 euros.
Exactement.
Allez,
le dernier. Allez, après ça, j'ai fini. J'ai fait ma BA. Ouais. Quand on a des dossiers, il y a un truc qui s'appelle AirSync, une commande Linux qui s'appelle AirSync, qui permet de synchroniser deux dossiers. En fait, c'est un peu la version interface graphique de AirSync. L'avantage, c'est que tu peux dire, je veux synchroniser tous les fichiers qui sont, et tu peux dire ça dans le cloud. Donc, je veux mes fichiers Dropbox, me les synchroniser avec Google Drive, et il va faire toutes les copies avec des règles, s'il est là, mais pas là-bas, s'il est là-bas, mais pas là, s'il est là-bas, je le garde, si c'est une copie qui change, donc tu peux faire des backups, tu peux faire... C'est hyper... Alors, attention, hein, on peut se perdre dans les paramétrages. Hein. Le truc, mais c'est génial. Voilà.
Stéphane.
Moi, je parle d'un outil qui s'appelle Amazing, avec un petit jeu de mots. Et en fait, c'est un outil qui est très intéressant parce qu'il permet déjà de synchroniser son téléphone. Et dedans, vous pouvez quand même... Bon, il a une valeur... Et je sais que le coût, je ne sais plus s'il est de 29 ou 39, je vais vous dire...
60 euros.
Pardon, il a augmenté, pardon. Excusez-moi, moi, j'ai payé aussi cher, je crois, à l'époque.
Mais
voilà. Et dedans, on peut quand même le télécharger parce qu'il y a dedans un outil très intéressant, un scanner d'outils de logiciels espions. Il est sorti au moment de Pegasus.
Ah, c'est vrai.
Et donc, je vous encourage à le télécharger si vous avez des doutes sur si votre femme vous a installé un logiciel espion ou pas.
Je pense que c'est plutôt dans l'autre sens, mais bon, passons.
Ah bon, ok, d'accord. Bah, je...
Hélas.
Christophe, si tu veux relever un peu le débat.
Alors, moi, je veux vous parler d'une application qui est gratuite de chez Apple, qui s'appelle Apple Configurator, qui est aujourd'hui en version 2.
Et ça sert à quoi ?
Et à quoi ça sert ? Ben, c'est très simple. On branche un iPad, un iPhone directement sur son Mac avec Apple Configurator et on va pouvoir lui pousser de la configuration. C'est pas mal utilisé en entreprise, mais c'est surtout vraiment top pour, par exemple, en fait, vous êtes des fans de Home. Hein, d'ailleurs, il faudrait qu'on refasse une
maison, maison, itimaison.
De maison connectée. Donc, effectivement, maison ou home, en fait, en fonction de la langue, de son système d'exploitation. Et beaucoup de gens, aujourd'hui, utilisent une tablette pour pouvoir faire en sorte de gérer l'ensemble de la maison. Et cette tablette est au mur.
Oui.
Et beaucoup de personnes se disent, ouais, mais comment je fais, moi, pour limiter l'accès à cette tablette parce que les enfants vont dessus, lancent la musique, font en sorte d'aller sur des jeux, lancent Angry Birds, la première version n'est plus disponible, mais peu importe. Et c'est vrai que cette tablette doit être dédiée, par exemple, à l'usage de Home,
d'accord,
avec une seule application. Eh bien, grâce à Apple Configurator, c'est possible de le faire.
Un peu comme pour les classes numériques.
Mode kiosque, exactement.
On va en parler bientôt des classes numériques. Toujours avec toi, Christophe.
Oui. Money, money, money.
Regardez, on refait la pas, vous comprendrez.
Ouais. Non, mais c'est sûr et certain. Je pense qu'un jour ou l'autre, ce serait pas mal d'investir dans
Oui, bon, on ne s'arrêtera pas.
Ce serait pas mal d'investir dans des cours de chant.
De chant, bien sûr. On refait la chanson.
Pour vos oreilles.
Money Stats,
c'est une application géniale qui vous permet, nous permet, me permet, permet à tout le monde.
Oui.
De gérer son budget à la maison.
C'est pas rigolo, ça.
Alors si, c'est rigolo, tu vas voir, c'est vraiment trop top. On va pouvoir importer des fichiers qui viennent directement de sa banque, ça vient se mettre à l'intérieur. On va pouvoir se dire, ça c'est pour la voiture, ça c'est pour les sorties, etc. Il va reconnaître après quelles sont les dépenses qui ont été faites en fonction de ce qu'on lui a déjà dit dans le passé. et il va faire de jolis graphiques qui vont dire ben, Christophe a trop dépensé en pop culture, par exemple.
Ouais. Et ça, c'est gratuit, une version payante pour les pros, c'est ça, 4,99€.
Oui, c'est ça, exactement. Il y a une version payante, hein, avec plus d'options encore.
Et les gens, j'ai une petite sélection.
Un petit tunnel, mais vite.
Allez, je l'ai fait très vite. Bartender, donc on parlait tout à l'heure de setups. Donc là, c'est la sélection des applis setups. Donc Bartender, c'est très simple. C'est quand on a ta barre de menu en haut où tu as trop d'icônes, tu lances Bartender et en fait, tu dis ça, je la veux, celle-là, je la veux pas. Celle-là, je la veux, celle-là, je la veux pas. Et en fait, tu as une petite icône dans laquelle tu as une sous-barre et du coup, tu masques tout ce qui ne sert à rien. Deuxième appli, c'est une super appli de chez MacPo, donc les éditeurs de setups, c'est Gemini 2 d'ailleurs, elle s'appelle. Elle existe aussi, et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais setups permet aussi d'avoir les applis sur l'iPhone.
Ouais.
Donc il y a une option pour l'avoir sur l'iPhone. Et en fait, elle scanne et elle te cherche tous les fichiers dupliqués. Ouais, surtout que de temps en temps, tu télécharges trois fois la même appli.
C'est une version allégée de ClimaMac, en gros.
C'est vraiment dédié au
monitoring.
Oui, surtout au doublon, donc ça sert à rien d'utiliser. CleanShot, je vous ai dit tout à l'heure que j'utilisais Sketch, mais je l'ai remplacé maintenant par CleanShot, aussi intégré dans cette app, et c'est un super outil pour faire des copies d'écran.
Ah
oui. Yoink, je suis grand fan. Alors, toutes ces applis, elles peuvent s'acheter séparément sur le store, mais dans cette app, ça sont inclus. Yoink, ça te permet de déplacer 1, 2, 3, 10 fichiers, et en fait, moi, ce qui se passe, c'est que j'ai un traitement qui est un peu long dans ce que je fais au jour le jour, et je prends mes fichiers, je les mets tous dans cette barre qui est sur le côté, et ensuite, je lance une autre fenêtre et je traite les fichiers, je les dépile un par un, donc c'est génial. Jump Desktop, c'est le Apple Remote Desktop de l'époque, mais version moderne, et surtout depuis ton iPad, tu peux prendre le contrôle de ton Mac, c'est génial. Pareto Security, Pareto Security, c'est un truc qui est assez sympa, c'est aussi dans cette app. Ça permet de faire un audit de ton ordi. Est-ce qu'il y a des choses qui vont pas dans ton ordi? Par exemple, j'ai pas changé le mot de passe, j'ai pas fait tout autour de la sécurité. Par exemple, moi, j'ai changé mon noyau, j'ai autorisé la modification du noyau, et il m'a dit, attention, au redémarrage, ton noyau a été modifié, normalement, tu devrais pas en être là. Ça, c'est une appli complètement non officielle. C'est une appli qui existe depuis toutes les versions de macOS 10, je pense. Et en fait, c'est une appli qui s'appelle Onyx. Elle est gratuite. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle te permet d'aller lire tous les fichiers de configuration de ton Mac et de lancer des opérations de nettoyage. Mais entre autres, tu peux modifier ton Safari pour avoir certaines options. C'est franchement top. Tu peux pas avoir un Mac et de pas l'installer. Alors, on arrive à une appli qui est...
D'abord, une petite question Twitter. Il n'y en a pas eu beaucoup dans cette émission.
C'est vrai.
Parce qu'elle ne se prête pas beaucoup à vos réactions. Mais en tout cas, vous avez quelques-uns à réagir. Notamment pour une application de la part de Vendry, GFI, Clean My Mac pour son design, tu confirmes Laurent?
Alors, il y a plein de gens qui détestent Clean My Mac en disant « Ouais, mais en fait, c'est un scam, ça sert à rien et tout ça. » Je ne suis pas du tout d'accord. En fait,
Pourquoi c'est un scam?
Parce qu'il y a plein de gens qui disent « Le Mac, on n'a pas besoin de le nettoyer, les choses. » Et en fait, ce qui est bien dans Clean My Mac, c'est que c'est un peu le Onyx, mais avec une super interface graphique. Tu peux supprimer, détruire des fichiers vraiment profondément. Tu as l'équivalent on a vu tout à l'heure un grand perspective dont on parlait. Pareil, tu peux aller scanner, te voir les dossiers dans lesquels tu as beaucoup de fichiers. Tu peux, alors moi par exemple, je ne l'utilise pas. Beaucoup de gens l'utilisent en faisant un scan régulier qui tourne en tâche de fond. Moi, je l'utilise pas comme ça. Mais par contre, il y a plein de petites fonctionnalités qui sont top dans Clean My Mac et j'adore. Et c'est les fondateurs de cette app. Donc si vous prenez cette app.
En revanche, il vaut mieux être up to date. Hein, n'utilisez pas.
Ah, oui.
Une version de Clean My Mac avec un Mac récent.
Il faut utiliser
Clean My Mac. Ça va faire plus de mal que de bien.
Exactement.
Autre réaction Twitter de Mano, une app sympa pour tout Apple addict, c'est Mac Tracker qui liste tous les appareils de la pomme depuis 1976.
Quelle belle année.
Jusqu'à aujourd'hui, un indispensable. Effectivement, Mac Tracker, c'est mon petite application chouchou également qui m'aide énormément lorsque j'écris sur l'univers Apple pour retrouver toutes les infos techniques sur les machines. Et puis, petite cerise sur le gâteau, hein, vous avez tous les sons de démarrage de tous les Macs, des autres machines, hein, depuis leur création. C'est un beau travail. Mac Tracker, c'est gratuit. Voilà, c'est en gros, on en a fait près d'une soixantaine d'applications déjà pour cette premier épisode dédié au top 100 des applications pour Mac. Je sens qu'il y aura plus de 100 à la fin de la deuxième émission. En tout cas, c'était la dernière app sélectionnée. Rendez-vous la semaine prochaine pour une sélection de 50 nouvelles apps. En attendant, place à la question de la semaine. Laurent, quelle était la question que l'on a posée à notre audience uniquement sur YouTube la semaine dernière?
La question était, Apple devrait-elle investir dans l'IA générative, à l'instar de ChatGPT, plutôt qu'un casque de réalité augmentée, puisqu'on parlait du casque de réalité augmentée la semaine dernière?
Et tu as sélectionné uniquement deux réponses sur YouTube.
Exactement.
La première.
La première, c'est Cam, qui a dit « Les IA comme ChatGPT représentent le futur de son point de vue, et donc si Apple pense que son casque est le futur de la tech, bah, ils doivent investir dans ce domaine et créer un objet, tu vois, qui soit dans l'ère du temps et donc dans l'ère du futur. Et donc, ça serait un casque, tu vois, avec un compagnon, comme ça serait incroyable de pouvoir échanger et discuter. Donc, voilà.
Intéressant.
Intéressant. Une option, une vision de l'autre côté d'Aurélien Ledran, qu'on connaît. Je ne pense pas qu'Apple aurait intérêt à suivre ChatGPT. Je pense qu'il est plus judicieux de rester sur le domaine de la santé dans les usages.
Ouais.
Mais c'est une approche, un truc. L'Apple Watch, les usages sont évidemment dans le sport et la santé avant tout. Et du coup, elle est, tu vois, c'est utilisé par des cardiologues. L'IA devrait plutôt être mise là-dessus que sur du génératif.
Ah oui, c'est intéressant.
Et oui, tout à fait.
Et dans l'exemple de WeThings notamment, si on intègre les applications de santé au casque, il pourrait vendre des palettes. Sur le long terme, si c'est des lunettes légères, on a fait une émission la semaine dernière, d'où la question de la semaine, allez la voir. On recevait les gens de Micro OLED, voilà, c'est une boîte française, allez voir, ils font des lunettes ultra légères, effectivement, si elles sont comme ça, les futures lunettes d'Apple, je signe de suite. La question de la semaine, on n'y répondra pas la semaine prochaine, mais dans deux semaines, Laurent.
Exactement. Donc en fait, on est en train de préparer une émission sur l'éducation. Et donc, en fait, on se pose la question de la place du Mac et de l'iPad, hein, voire de l'IA, hein, puisqu'on avait l'IA à l'école. Et donc, on se pose la question qui est, croyez-vous enfin à l'émergence d'un cartable numérique, hein, si oui ou non, pour quelles raisons, et quel serait le rôle d'Apple dans cette numérisation de l'école?
Okay. Qu'est-ce qu'il y a?
Non, mais c'est bien, je découvre des choses.
Eh oui.
Non, mais il faut t'intéresser un petit peu.
Non, mais je ne sais pas au courant.
Mais oui, mais tu verras, tu seras là.
Tu seras là!
J'espère.
Ah bon, sinon, je peux poser des questions aussi, si vous voulez.
Voilà. Non, tu vas y répondre. Vous répondez exclusivement dans les commentaires de YouTube. Hein. Nous sélectionnerons des réponses qui remportent un mois d'abonnement, non pas un mois d'abonnement, qui remportent chacun un t-shirt ORLM. Pour les gagnants de cette semaine, contactez-nous via le mail contact@onrefaitlemac pour recevoir votre t-shirt. Idem pour ceux qui ont gagné la semaine dernière, on n'avait jamais reçu les mails. Voilà, on passe à vos coups de cœur. Allez vite, le coup de cœur, Laurent.
Alors, c'est toi le fan de Sonos.
Oui.
Mais moi, j'ai réécouté il y a quelques semaines un vinyle. Et autant j'étais... Tu vois, quand le CD est arrivé, j'ai dit, mais c'est génial, le vinyle, c'était de la merde. Non, mais le CD, c'était tellement pratique, tu vois, ça se rayait pas, c'était... Et en fait, j'ai réécouté un vinyle et j'ai eu un peu la nostalgie, quoi. De ce côté, de ce grain, et de prendre le temps. La chanson te plaît pas, t'attends la suivante. Tu n'es pas en train de dire suivant. Et en fait, c'est une société qui s'appelle Victrola qui a sorti quelque chose qui s'appelle Victrola Stream. Et en fait, c'est une platine qui est totalement compatible Sonos et ça marche du feu de Dieu avec Sonos. Ça
sort. Wifi.
Directement, ouais. Directement. Et donc, ils ont deux modèles. Alors, c'est pas donné, hein. Ils ont deux modèles. Ça vaut $599 et $799 aux US. En France, il y a que le modèle à 799 et il est vendu 990 €. Ouf. OK, à la Fnac et chez Boulanger.
Il y a une taxe Vitrola.
Je pense qu'il y a une taxe grande distribution française, je dirais. Mais par contre, le produit est vraiment un produit.
Il a l'air chouette.
Hein. Ouais, c'est vraiment chouette. La version carbone, elle est, mais de toute beauté.
Christophe.
Entrez dans mon coup de cœur de la journée.
Alors de quoi
je vais vous parler d'un collectif français qui s'appelle Art de Cinéma et qui crée des fanzines sur le cinéma. Hein, donc c'est vraiment des passionnés du 7e art. Donc c'est plutôt cool. Et qui crée un tas de bouquins, un tas de supports sur les différents livres du cinéma au fur et à mesure des années.
Que des films qui ont marqué l'histoire du cinéma.
Oui, effectivement. Comme ici j'ai Les Contes de la Crypte.
Bah oui.
J'ai Vendredi 13,
bah
etc.
Oui.
Ça, c'est la version, collector. Hein,
de luxe.
Cartonné, voilà, exactement. Enfin, c'est juste incroyable ce qu'on trouve à l'intérieur. Ils vont jusqu'à faire des à côté en fait au bouquin avec des petites cartes, des posters pour remettre par exemple dans la chambre de Laurent.
Enfants.
De Laurent peut-être.
Non,
de Stéphane, je ne sais pas. C'est juste génial. Ils sont hyper doués.
Ça coûte cher.
C'est hyper qualitatif. Bon, ça dépend en fait du bouquin, ça dépend du thème, etc. C'est souvent entre 30 et 70 €, je vais dire.
Très bien, merci Christophe. Stéphane.
C'est une série dont j'ai sûrement parlé, que j'en parle à tout le monde, qui s'appelle Succession.
Alors,
c'est
pourquoi tu en reparles alors?
C'est la saison finale.
Ah.
Et elle a commencé il y a 3 semaines sur HBO, donc maintenant Amazon Prime, parce que ça a été
intégré
dedans depuis la vente d'OCS à MyCanal. Et les trois premiers épisodes ont été diffusés sur la plateforme.
Je ne comprends plus rien.
Et je peux juste dire une chose.
C'est Amazon Prime ou c'est sur MyCanal ?
C'est Amazon Prime. D'accord. C'est sur Amazon Prime parce que...
Bon, je ne comprends plus rien. Voilà. Ah oui, d'accord.
Et Succession, c'est souvent le grand final. Hein.
Ah ouais, d'accord.
Et voilà. Et donc là, maintenant... et là, donc, c'est les trois premiers épisodes ont commencé. Et si vous les regardez... je pense que les scénaristes, là, ils se sont vraiment donnés à cœur joie. Je ne vais pas vous spoiler, mais c'est du très, 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 très haut niveau.
Mon côté, c'est un coup de cœur gratuit. Les ouvrages et les histoires, les côtés coulisses et l'intimité de Steve Jobs est gardé souvent jalousement secret. Vous savez qu'Apple a mis en ligne une sorte de musée permanent de Steve Jobs. Et cette semaine est apparu un livre numérique, un e-book, qui s'appelle « Make Something Wonderful, Steve Jobs in his Own World ». J'arriverai jamais à le dire, mais c'est pas grave. En clair, c'est vraiment les meilleures citations de Steve.
Pas de citations, carrément des interviews.
Des interviews, des moments...
Je suis en train de le lire, c'est terrible.
Voilà, et notamment quelques photos assez étonnantes de son enfance. On comprend mieux le parcours du personnage, comment il a eu la chance, étant notamment... un enfant adopté, d'avoir grandi dans la Silicon Valley, et comment en ayant grandi dans la Silicon Valley, il a eu l'opportunité de créer Apple. Il n'avait pas forcément les opportunités, parce que son père n'avait pas les finances pour lui payer une école d'ingénieur. Il n'était pas ingénieur lui-même, il était plutôt manuel comme garçon. On voit plein de vidéos sur le web, il y a plein de révisionnistes en ce moment sur Steve Jobs, c'est vraiment n'importe quoi. Lisez cet ouvrage, c'est assez étonnant.
Ouais. Alors moi j'ai trouvé un truc génial dans ce livre, et je m'éclate. Il dépeint la Silicon Valley de son enfance, et tu te rends compte combien la Silicon Valley a évolué. Parce que moi, je connais beaucoup la Silicon Valley d'aujourd'hui, et je prends beaucoup de plaisir à... Et il raconte, par exemple, que Palo Alto, c'était des orangers, quoi.
Ouais,
c'était des orangers à perte de vue.
Il y avait des arbres fruités partout, d'où le nom Apple. Et notamment à Cupertino, sur l'ancien, aujourd'hui, il y a l'Apple Park, c'était l'ancien siège d'HP, c'est là où il a fait son premier stage, il l'avait visité avant que ce soit rasé. Et effectivement, il y avait des arbres fruitiers à perte de vue. Allez lire ce bouquin, il est en anglais hein, malheureusement, il y avait 400 pages, j'allais passer un bon moment, moi j'ai passé mon week-end là-dessus. Voilà, c'est la fin de cet épisode dont Refait le Mac. Merci de l'avoir suivi, merci encore pour votre fidélité. On se retrouve dès la semaine prochaine pour la deuxième partie de cette émission. On va à nouveau feuiller les 100 meilleures applications pour Mac, exclusivement pour Mac, et on vous réserve encore des surprises. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite bien sûr à vous abonner. Abonnez-vous, likez, c'est important, on compte sur vous, et abonnez-vous à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton, c'est important. Et n'oubliez pas encore une fois de liker et de cliquer sur le petit pouce. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine.